Le temps aussi passe très vite, donc on va tout de suite ouvrir nos Bibles dans Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Et nous allons lire deux courts passages concernant notre Sauveur. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur la maison, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc l'auteur de cette lettre nous encourage à considérer Jésus, à prendre Jésus en considération, à réfléchir au sujet de Jésus, à méditer la personne de Jésus. Et en nous invitant à le considérer, à réfléchir sur lui, il souligne son rôle dans le plan de Dieu et son rôle dans le royaume de Dieu. C'est normal que l'auteur nous encourage surtout à nous concentrer sur la personne de Jésus, compte tenu de sa nature et compte tenu de sa place dans le plan et dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul en parle également dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 12. Lui, il parle donc, comme l'auteur de cette lettre aux Hébreux, aux chrétiens, en disant « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. » Bien-aimé. Donc le Père a choisi de donner l'autorité du royaume à son Fils, de donner ce statut, ce rôle particulier d'être à la tête de son royaume. Il l'appelle même le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né étant donc, bien évidemment, un statut particulier, on pourrait le traduire, le prince héritier de toute la création. Et donc, vu sa nature, vu son rôle si important, l'auteur de cette lettre aux Hébreux nous invite donc à le considérer, à réfléchir au sujet de Jésus, à fixer notre regard, à fixer nos pensées, nos cœurs sur Jésus. C'est donc ce que nous allons faire ce matin, mais c'est également ce que nous devons faire tous les jours. Puisque donc, comme on a vu à plusieurs reprises, la foi chrétienne n'est pas un système philosophique ou une liste de règles à ne pas enfreindre. La foi chrétienne est avant tout une relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc tant que Jésus-Christ reste au centre de notre vie, nous sommes dans la foi chrétienne. Le seul risque, c'est si on commence à mettre autre chose à la place de Jésus, autre considération à la place de celui que nous devons considérer avant toute autre chose. Donc tous les jours, fixons notre regard sur Jésus, considérons Jésus, rappelons-nous qui est Jésus, ce que Jésus a fait pour nous, ce que Jésus fait pour nous tous les jours, et restons donc concentrés sur lui et proches de lui. Donc, évidemment, Jésus a énormément de titres, de descriptions de sa personne et de son rôle dans la Bible. Ce matin, nous allons juste en regarder trois. Et les premiers, donc, se trouvent dans ce passage que nous venons de lire dans Hébreux chapitre 3. Premièrement, donc, l'auteur nous encourage à considérer l'apôtre de la foi que nous professons, c'est-à-dire Jésus. Jésus, donc, est appelé notre apôtre. Cela peut nous surprendre, n'est-ce pas? On a l'habitude de penser à l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul. On ne pense pas premièrement à l'apôtre Jésus. Et pourtant, la Bible nous dit ici que Jésus est l'apôtre de notre foi. Alors, finalement, pour comprendre, ça devient assez évident comme titre lorsque on place cela dans le contexte de cette lettre aux Hébreux, parce que dans cette lettre, une des intentions principales de l'auteur, partie importante de cette lettre, c'est d'expliquer la supériorité de Jésus. L'auteur nous dit, vous pensez que telle chose ou telle personne est importante? Oui, d'accord, mais Jésus est encore plus important. Jésus est encore plus grand. Jésus est encore plus merveilleux. D'abord, il compare Jésus à des anges en disant que Jésus est plus grand que les anges. Je pense que si un ange descendait dans la salle ce matin et se présentait devant nous, on serait quand même impressionné, n'est-ce pas, par la grandeur et la puissance de ces êtres célestes. Et pourtant, la Bible nous dit que Jésus est plus grand. Pour les Juifs, ils avaient un rôle encore plus important que pour nous, parce que les Juifs croyaient que c'était par des anges que Dieu a transmis la loi à Moïse lorsque il a établi la loi pour le peuple d'Israël. Donc ils avaient cette vénération. Après, il y a eu ces révélations, ces visitations des anges au moment clé dans l'histoire du peuple juif. Et puis on a par exemple le récit de Daniel qui a vu donc non seulement des anges venir lui transmettre des messages particuliers, mais qui combattaient en faveur du peuple de Dieu. Donc l'auteur dit à ces chrétiens d'origine juive, vous avez une grande admiration, une grande estimation des anges, avec raison, mais sachez que Jésus est nettement plus grand, nettement supérieur. À la fin du chapitre 1er, il décrit les anges en disant, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut ?» C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage. Donc, les anges, dit-il, ont joué un rôle important, ont apporté cette première alliance. Mais nous avons reçu un message encore plus merveilleux, ce message du salut, Et puis, il souligne, au début du chapitre 1er, Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Vous savez, il y a des gens qui font des fixations sur des anges, qui passent toute leur vie à essayer de savoir quels sont les noms de tous les anges et de classifier tous les anges. Tant mieux si ça les chante, mais la Bible nous dit que nous avons plutôt intérêt à nous concentrer sur Jésus, à passer notre temps à admirer Jésus, à fixer notre regard et nos pensées sur Jésus, parce que lui, il est d'autant supérieur aux anges que lui, il a reçu un nom plus grand, supérieur, plus excellent que le leur. Parce que Dieu le Père a dit, « Tu es mon Fils, je serai pour toi un Père. » Concentrons-nous donc plutôt sur Jésus. C'est comme il y en a qui se concentrent avant tout sur des anges déchus. Je dirais quelque part, c'est encore plus ridicule que de s'attarder sur les anges qui ont gardé leur station dans les cieux. Notre ennemi, on sait, est un ange déchu, mais finalement, on n'a pas tellement besoin de faire une fixation sur notre ennemi et de passer tout notre temps à étudier notre ennemi, quand on peut passer notre temps à garder nos yeux fixés sur celui qui a déjà vaincu notre ennemi et donc qui est nettement supérieur à lui. Dans le chapitre 3, il compare Jésus avec Moïse. Vous imaginez le statut de Moïse parmi le peuple juif. Et pourtant, Dieu dit, Moïse a été fidèle en tant que serviteur dans la maison. Mais nous, notre Seigneur, il est le fils héritier de toute la maison. Donc considérons surtout celui qui est le prince héritier du royaume de son Père. Dans le chapitre 7, il compare Jésus avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Parce que, vous savez, la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, ne tient que par le service des sacrificateurs. C'est toutes les lois concernant les Lévites, concernant le service lévitique, le temple et tous les sacrifices qui donnent un sens à la loi de Moïse. Parce que lorsque Dieu a donné cette loi au peuple juif, il savait pertinemment que l'homme est incapable de garder la loi à cause du péché. Il dit, le péché nous indique quel est le péché. La loi nous indique que nous sommes pécheurs avec besoin d'un sauveur. Mais la loi ne fait que nous enfoncer. Le seul moyen qu'Israël ait pu continuer d'exister devant Dieu malgré leur péché, c'était les sacrifices, c'était le service lévitique, le service des prêtres. Sans eux, le peuple serait perdu. Donc les sacrificateurs avaient un rôle énorme dans le plan de l'Ancien Testament, parmi le peuple juif, et surtout le souverain sacrificateur qui avait ce privilège d'être le seul, un jour par an, d'entrer dans la présence même de Dieu. Donc, en écrivant à ces chrétiens d'origine juive, l'auteur disait, vous connaissez l'importance du souverain sacrificateur. Nous pourtant, nous avons maintenant un souverain sacrificateur encore plus grand, encore plus important. Chapitre 7, verset 20. Jésus n'est pas devenu sacrificateur sans serment. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Il dit, l'ancien était tout de même la parole de Dieu, c'était tout de même le système de Dieu pour son temps, mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu a établi une alliance encore plus excellente avec un souverain sacrificateur encore plus excellent. Et donc, dans le chapitre 3 que nous venons de lire, il l'appelle également l'apôtre de la foi. Et finalement, comme Jésus est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur aux sacrificateurs et aux lévites, il est également supérieur en tant qu'apôtre. Il est l'apôtre par excellence, celui qui est le plus grand des apôtres. Parce que qu'est-ce qu'un apôtre? Finalement, lorsque les chrétiens de l'époque ont reçu cette lettre et l'ont lue, la lettre était sans doute écrite dans le grec. Alors, Georgia, ils auront lu le mot « apostolos », qui veut dire au fond un envoyé. Ça vient du verbe « apostolo » qui veut dire « apostolo » qui veut dire « envoyé »,« envoyé au loin » ou « envoyé quelqu'un vers un lieu défini pour quelque chose ». Et donc, c'est un mot qui veut dire un envoyé de Dieu, en particulier dans le contexte biblique, mais qui était simplement le mot pour quelqu'un qui était envoyé. Les apôtres, donc, étaient des envoyés de Dieu pour apporter le message de l'Évangile, pour implanter les églises. Galates chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul dit... Paul, apôtre, donc envoyé, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Donc Paul dit, si je suis venu vers vous, c'est parce que Dieu m'a envoyé vers vous. Il m'a pris de là où j'étais, il m'a envoyé vers vous pour annoncer cette bonne nouvelle à vous. Galates 2, verset 8, « Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, donc celui qui a envoyé Pierre aux circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, m'a envoyé moi aux païens. » Donc les apôtres étaient des envoyés. La Bible nous dit que Jésus est l'envoyé de son Père par excellence. Donc, apôtre de son Père par excellence. Luc chapitre 4, verset 43. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela, disait Jésus, que j'ai été envoyé. Je suis l'envoyé de mon Père. Je suis l'apôtre de mon Père. Jean 5, versets 22 à 24. Le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Il était l'envoyé de son Père. Et aussi dans sa prière pour ses disciples, dans Jean 17, dans le verset 18, il dit au Père, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Il a été envoyé par le Père. Il est l'envoyé du Père. Donc, l'apôtre de la foi. Nous savons aussi dans le Nouveau Testament que surtout la première génération des apôtres avait un rôle de poser les fondements. Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 3, lorsqu'il dit « J'ai posé les fondements, maintenant attention comment vous allez construire sur ces fondements. » Dans Éphésiens 2, verset 20, il va dire « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Rien que dans cette phrase, on voit Jésus comme l'apôtre par excellence, parce que non seulement il a posé le fondement, mais il est lui-même le fondement. Paul peut dire « J'ai posé le fondement parce que je vous ai prêché Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Mais Jésus est venu apporter ce fondement, poser ce fondement qu'il est lui-même. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Il est donc l'apôtre de la foi que nous professons. L'auteur dit « Il est l'apôtre » et le souverain sacrificateur. Donc, l'auteur de cette lettre va le décrire comme sacrificateur, même si là aussi, l'usage de ce titre pour Jésus peut nous surprendre. Puisque dans le système lévitique de l'Ancien Testament, Jésus ne devait pas être souverain sacrificateur. Vous savez qui était le premier souverain sacrificateur ?
Aaron.
Aaron, qui était de la tribu de Lévi. Et par la suite, on devenait souverain sacrificateur, tous bêtement, de père en fils. Donc forcément, c'était dans la tribu de Lévi qu'on trouvait le souverain sacrificateur. Mais Jésus ne venait pas de la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de
Judas,
parce que Jésus était descendant de David. Il était ce fils de David qui avait été promis dans l'alliance que Dieu a fait avec David. Et donc l'auteur aux Hébreux va écrire dans le chapitre 7, verset 13, « En effet, celui de qui ces choses sont dites, appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Donc, il l'appelle l'apôtre de la foi, il l'appelle souverain sacrificateur de la foi. Il est donc à la fois apôtre et souverain sacrificateur, mais en même temps, ces titres ne colleraient pas vraiment à lui si ce n'est qu'il est tellement supérieur à tous les autres qui portent ces titres. Et donc Jésus, tout en étant de la tribu de Judas, est souverain sacrificateur de notre foi, dans la mesure où, de toute façon, il ne dépend pas du système de Lévi, le système lévitique, il est souverain sacrificateur pour toujours. Verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, non pas prêtre de père en fils où on devient souverain sacrificateur simplement parce que notre père était souverain sacrificateur, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek. Ce Melchizédek qui apparaît de nulle part dans l'histoire d'Abraham, qui est connu comme roi de Salem, et donc qui est venu bénir Abraham, et à qui Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait gagné dans le combat quand il est allé libérer sa famille. Donc Jésus, du coup, est à la fois, comme il est l'apôtre qui pose le fondement et le fondement même, il est maintenant le souverain sacrificateur de notre foi, tout en étant le sacrifice lui-même. Romains chapitre 3 souligne le rôle de Jésus en tant que sacrifice. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, donc sacrifice pour le péché, afin de montrer sa justice. Il est le sacrifice qui nous permet d'avoir nos péchés pardonnés, mais en même temps, il remplit le rôle du sacrificateur car il s'offre lui-même au Père en sacrifice. Un peu plus loin dans Hébreux chapitre 9, verset 11, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. À nouveau, nous connaissons l'importance que les Juifs de cette époque mettaient dans le temple. Il y avait même toutes ces règles que Jésus souligne comme ridicule, où il dit vous mettez même des règles en place sur quand est-ce qu'une offrande est sacrée en fonction de est-ce que c'est dans le temple, est-ce que c'est sur l'autel, est-ce que ça n'a pas touché l'autel, etc. Il dit le temple était important, mais Jésus, qui est supérieur au sacrificateur, qui devenait sacrificateur simplement par naissance, Jésus est souverain sacrificateur dans le tabernacle plus grand et plus parfait. Même le lieu de service est plus grand, plus excellent. Vous vous souvenez, à l'époque où Moïse a reçu les instructions sur comment construire le tabernacle, Dieu avait dit « Veille scrupuleusement à ce que tout soit fait selon le modèle que je t'ai donné. » Parce que ce modèle reflète les réalités spirituelles là où moi je suis. Reflète la forme de ce lieu très saint où se trouve ma présence dans les cieux. Donc il faut que tout soit construit selon ce modèle. Mais maintenant, on n'est plus en train de parler du modèle. Le tabernacle qu'a fait Moïse, c'était fait avec des choses tout à fait ordinaires sur la terre. Ce n'était pas quelque chose comme une livraison Amazon ou Ikea où tout est descendu du ciel en colis, Moïse soit sorti de sa tente et voilà, le colis attendait avec tout le matériel spirituel, spécial, préparé au ciel. Il devait aller prendre des pierres, il devait aller prendre du bois, il devait faire travailler le métal, il devait couper le tissu à la bonne taille pour construire le tabernacle, et donc, avec le temps, ces matériaux se sont usés. Même le temple qu'ils ont construit plus tard, quand ils ont dit « c'est pas normal que nous vivons dans de belles maisons et que Dieu soit sous une tente », même ce beau temple qu'ils avaient construit, le premier a été brûlé et démoli par les Babyloniens. Après, il y a eu X reconstruction, et puis donc le dernier qui avait été détruit par les Romains, et ceux qui sont allés à Jérusalem ou qui ont vu des films ou des vidéos sur Jérusalem, vous savez, il ne reste plus que ces quelques pierres de la mur de lamentation qui resteraient du temple de l'époque, détruit par les Romains. C'était des choses périssables, des choses de ce monde. Jésus, donc, a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, car c'est le modèle sur lequel les autres ont été construits. C'est le ciel même, le lieu d'habitation de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. J'ai vu le souverain sacrificateur, tous les ans, il devait y aller. Parce que, dit l'auteur, le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Ça pouvait juste couvrir le péché en attendant le sacrifice suivant. Jésus et d'entrer une fois pour toutes, pas besoin de retourner tout le temps. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, et non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car c'est le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sacrificateur devait entrer, présenter le sang sur l'autel devant Dieu pour couvrir le péché du peuple de Dieu. Jésus est entré avec son propre sang, offrir son propre sang au Père pour nous apporter le pardon des péchés. Et puis le sacrificateur intercédait en faveur du peuple. Un aspect de son rôle, c'était de prier pour le peuple, de demander au Père de pardonner les péchés du peuple. Romains 8, verset 34 nous rappelle, « Christ est mort. Si quelqu'un veut condamner le peuple de Dieu, Paul dit, il ne faut jamais oublier, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. » Et il intercède pour nous. Tous les jours, nous avons Jésus-Christ qui prie pour nous. Souvent, on entend des témoignages justement où les gens remercient l'Église pour les prières en disant « Je me sens privilégié, porté d'avoir, de savoir que des gens prient pour moi. » Mais tous les jours, Jésus, notre souverain sacrificateur, prie pour nous. Après, innombrables sont les titres qu'on pourrait regarder au sujet de Jésus, mais on va juste se limiter à une troisième pour ce matin, peut-être plus merveilleux encore même qu'apôtre, que sacrificateur. Et pour cela, on va revenir sur le texte qu'Alain nous avait cité dimanche dernier, dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit le modèle pour tout époux, c'est Jésus-Christ lui-même dans sa manière d'être l'époux de l'Église. Finalement, là aussi, c'est un titre tout à fait approprié pour Jésus, compte tenu que notre relation avec lui est fondée dans une relation d'amour. Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Parfois, certaines personnes sont tentées de se poser la question, est-ce que Jésus m'aime vraiment? J'ai des doutes si Jésus m'aime. Jésus lui-même dit qu'il nous aime avec le même amour qui existe au sein de la Trinité entre Père, Fils et Saint-Esprit. Si vous doutez de l'amour de Jésus pour toi, rappelez-vous qu'il vous aime avec l'amour, le même amour avec lequel le Père l'aime lui. 1 Jean 4, verset 19. « Donc pour nous, Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est donc une relation tout à fait normale d'amour. Lui nous aime avec cet amour éternel, avec l'amour divin, et nous, nous répondons à son amour avec de l'amour pour lui. Et donc, c'est tout à fait normal que le Nouveau Testament emploie cette image de l'époux de noces pour parler de notre avenir avec lui. Matthieu 25, verset 1er. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. » Cet époux qui va venir. Et Apocalypse 21, verset 2 nous dit « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Le modèle que la Bible nous donne pour cette relation que nous avons avec Jésus, il dit « L'Église est l'épouse de cet époux qui va venir. » Il est donc notre fiancé, fiancé de l'Église. C'est pour ça que Paul souligne l'implication de la fidélité vis-à-vis de Jésus dans 2 Corinthiens 11, verset 2, en disant « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Si vous lisez les lettres de Paul aux Corinthiens, il n'est pas toujours tendre avec eux. Il y a beaucoup de passages où il reprend leur comportement, où il leur dit « Mais comment est-ce que d'un côté vous puissiez dire que vous êtes chrétien, que vous puissiez louer le Seigneur, et puis de l'autre, en dehors, vous vivez n'importe comment ?» Il dit « Vous devez, dans toute votre vie, être fidèle à Jésus-Christ. Vous devez avoir un comportement qui révèle votre fidélité à Jésus-Christ. » Mais il n'est pas en train d'imposer une nouvelle loi. Ici, dans ce verset que nous venons de lire, il leur explique pourquoi il ose leur dire des choses pareilles, pourquoi il martèle tellement leur comportement, l'importance de leur comportement. Il dit « C'est parce que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. » Il dit « Si je vous vois en train d'aller faire l'amour à n'importe qui, j'ai le droit de revenir et de vous dire de veiller sur votre comportement parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Et mon objectif, dit Paul, c'est que lorsque Jésus-Christ viendra vous chercher, viendra pour son Église, vous serez toujours une vierge pure en train d'attendre votre époux. » Mais aussi, le fait que la Bible décrit cette relation comme la relation entre fiancé, entre époux et épouse, ça souligne aussi que, oui, on va veiller sur notre comportement pour lui rester fidèle, mais cette relation doit provoquer plutôt de la joie que d'être un devoir lourd et pesant. Alors pour ceux qui sont mariés, si vous vous rappelez le temps de vos fiançailles, j'espère que cela vous procurait une joie à l'époque de retrouver votre fiancé. Bon, je vais pousser le bouchon jusqu'à dire, j'espère que si vous êtes marié, vous avez toujours de la joie en retrouvant votre époux ou votre épouse. Si jamais, pour les plus jeunes, vous vous demandez si vous devez vous fiancer avec quelqu'un et vous dites que, d'accord, mais ça va être une corvée de rencontrer cette personne tous les jours, posez-vous des questions sérieuses, parce que je ne pense pas que ce soit la bonne personne. Ça doit nous provoquer de la joie de retrouver cette personne, non pas un devoir qui est pesant. Si vous voulez savoir le genre de relation que nous devons avoir avec le Seigneur, lisez le Cantique des Cantiques. Déjà, je vous le conseille rien que pour les couples mariés, pour savoir quel impact votre mariage devrait avoir dans votre vie. Mais aussi, on peut l'étendre à notre relation avec le Seigneur pour se rendre compte de la joie que cela doit provoquer de pouvoir dire « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Lorsqu'on est fiancé à quelqu'un en particulier, il est normal d'admirer cette personne, de faire une fixation sur cette personne. Vous savez, généralement, lorsque quelqu'un est fiancé, ses copains se disent « Oh non, il va nous encore parler d'elle. Il va encore nous raconter tout ce qu'il a fait avec elle. » Parce que cette personne tient une telle place dans son cœur et dans sa vie. Et c'est cette relation-là que nous sommes censés avoir avec le Seigneur, parce que nous avons été fiancés à un seul époux pour se présenter à Christ comme vierge pure. Donc ce matin, comme tous les jours, considérons Jésus. Fixons nos pensées, fixons notre cœur sur Jésus, notre époux qui va venir, qui est l'apôtre, qui a posé les fondements de notre foi, nous permettant d'avoir accès à cette grâce, qui est le souverain sacrificateur qui s'offre lui-même au Père pour le pardon de nos péchés et qui prie pour nous tous les jours, qui est notre fiancé, l'objet de tout notre amour.